Les Lectures de Mimi, votre nouvelle émission proposée par la Bibliothèque de Gérouville. Tous les jeudis, découvrez un nouvel extrait de littérature jeunesse et un nouvel extrait de littérature adulte. Votre nouvelle émission de lecture, c'est maintenant! Salut tout le monde et bienvenue dans votre toute nouvelle émission Les Lectures de Mimi, en collaboration avec la Bibliothèque de Gérouville. Dans cette émission, on va vous proposer des extraits d'ouvrages jeunesse et des extraits d'ouvrages adultes afin que vous puissiez voir quelles collections sont disponibles et si vous souhaitez ou pas venir les emprunter. Généralement, ces collections sont également disponibles à la Bibliothèque de Florentville si jamais ça vous intéresse. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier extrait du livre Eragon de Christopher Paolini. Le vent hurlait dans la nuit, charriant une odeur qui allait changer le monde. Un ombre de grande taille leva la tête et huma l'air. Cette ombre avait tout d'un humain, ou presque. Ses cheveux étaient cramoisis et ses yeux pourpres. Il battit des paupières, surpris. L'information était bonne. Ils approchaient, à moins que ce ne fût un piège. Il hésita, puis ordonna d'une voix glaciale « Dispersez-vous, cachez-vous derrière les arbres et les bosquets, arrêtez quiconque approchera ou périssez !» Autour de lui, 12 Urghals s'avancèrent en traînant les pieds. Ils étaient armés de petites épées et portaient des boucliers ronds en fer, couverts de signes noirs. Eux aussi ressemblaient à des humains, dotés de jambes courtaudes et arquées, et de bras puissants, faits pour l'action. Mais une paire de cornes tordues poussait au-dessus de leurs petites oreilles. Les monstres se précipitèrent vers les taillis pour s'y dissimuler en grognant. Bientôt, leur remue-ménage cessa, et le silence revint sur la forêt. Tapis derrière un gros arbre, l'ombre balaya les environs d'un regard attentif. Il scruta le chemin. Un humain n'aurait rien distingué dans cette obscurité. Mais, pour un ombre, la pâle lueur de la lune était aussi lumineuse que des rayons de soleil passant à travers les ramures. Aucun détail ne lui échappait. À ses yeux, tout était clair et net. Il demeura calme, une attitude inhabituelle chez lui. Il avait dégainé sa longue épée au reflet blafard. Une éraflure presque imperceptible parcourait la rapière. L'arme était à la fois assez fine pour se faufiler entre deux côtes et assez solide pour transpercer l'armure la plus dure. Les Urghals n'avaient pas une aussi bonne vue que l'ombre. Ils progressaient à tâtons, se servant de leurs épées comme des aveugles se fussent servis de leurs cannes. Le ululement strident d'une chouette s'éleva, brisant le silence. La tension monta d'un cran, le temps que l'oiseau s'éloigna. Puis, la nuit froide fit frissonner les monstres. L'un d'eux posa sa lourde botte sur une brindille. Furieux, l'ombre siffla, et les Urghals s'immobilisèrent. L'ombre réprima le dégoût qu'il lui inspirait. Il dégageait des relents de viande pourrie et se détourna. C'était des instruments, rien de plus. Des minutes passèrent, devenant des heures. L'odeur de ceux qu'ils attendaient avait dû les précéder largement. L'ombre s'efforça de maîtriser son impatience. Il ne laissait pas les Urghals se reposer ou se réchauffer, et il ne s'accorda pas davantage ce luxe. Il resta derrière son arbre, ne quittant pas le sentier des yeux. Un nouveau coup de vent secoua la forêt. L'odeur était plus forte cette fois. Très excité, il retroussa un peu sa lèvre supérieure et gronda. « Tenez-vous prêts, » murmura-t-il. Son corps vibrait de la tête aux pieds. La pointe de son épée décrivait de petits cercles. Il lui avait fallu tant manigancer et tant souffrir pour en arriver là. Ce n'était pas le moment de craquer. Les yeux des Urgals brillèrent sous leurs épais sourcils. Ils serrèrent plus fort leurs armes. Non loin, l'ombre entendit un tintement. Quelque chose de dur avait heurté un gravillon. Des formes indistinctes apparurent dans l'obscurité et s'engagèrent sur le chemin. Trois chevaux et leurs cavaliers galopaient vers l'embuscade, la tête haute et fière, leurs robes scintillant sous la lune comme un lac d'argent. Le premier cheval était monté par un elfe aux oreilles pointues et aux sourcils légèrement inclinés. Son corps était svelte, mais solide comme un sabre. Dans son dos, un arc puissant. À son côté, une épée et des flèches parées de plumes de cygne. Le cavalier qui fermait la marche avait le même visage, régulier et anguleux que le premier. Il portait une longue lance à la main droite, une dague blanche à la ceinture. Un casque d'une perfection extraordinaire, un chef-d'œuvre serti d'ambre et d'or, couvrait sa tête. Entre ces deux-là, chevauchait une elfe aux cheveux noirs de jais. Elle scrutait les alentours avec sang-froid. Dans ses yeux profonds, encadrés par deux longues mèches couleur d'encre, brillait une force impérieuse. Ses vêtements sans atours n'enlevaient rien à sa beauté. Comme le cavalier de tête, elle portait une épée, un grand arc et un carquois. Elle tenait contre elle un petit sac qu'elle regardait fréquemment comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Le cavalier de tête parla à voix basse. L'ombre ne réussit pas à entendre ce qu'il disait. La femme répondit d'un ton autoritaire. Ses gardes du corps changèrent de place. L'elfe au carquois raffermit la prise sur sa lance et ouvrit la route. Les voyageurs passèrent sans méfiance devant l'endroit où se cachait l'ombre et les premiers Urgals. L'ombre savourait déjà sa victoire quand le vent tourna, apportant aux elfes les lourds effluves dégagés par les Urgals. Inquiets, les chevaux renâclèrent et relevèrent la tête. Leurs cavaliers se raidirent, regardant de tous côtés. Soudain, ils firent virer leurs montures et s'enfuirent au triple galop. Le cheval de la femme prit d'emblée une avance considérable sur ceux de ses compagnons. Les Urgals, quittant leur abri, se déployèrent et tirèrent une volée de flèches noires, puis deux autres. L'ombre bondit hors de sa cachette, sous l'arbre, leva la main droite et cria « Xarjla !» Un éclair rouge jaillit de sa paume, visant la femme elfe. Il enveloppa les arbres d'un halo sanguin et atteignit le coursier de l'elfe. L'animal perdit l'équilibre et lâcha un hennissement suraigu avant de s'écrouler sur le poitrail. La cavalière sauta à terre avec une vivacité inhumaine. Elle se reçut avec légèreté et jeta un regard derrière elle, cherchant ses gardes du corps. Les flèches mortelles des Urgals rattrapèrent rapidement les deux elfes qui tombèrent de leurs chevaux rassés. Leur sang macula la poussière. Au moment où les Urgals se précipitèrent sur leur victime, l'ombre rugit. « Occupez-vous d'elle ! Cela ne m'intéresse pas !» Les monstres grognèrent et se ruèrent sur le sentier. La femme poussa une exclamation en voyant ses compagnons morts et s'avança d'un pas. Puis, elle maudit ses ennemis et s'enfonça dans la forêt. Tandis que les Urgals battaient les bois, l'ombre grimpa sur un grand bloc de granit qui dominait la cime des arbres. De là, il pouvait voir toute la forêt. Il leva une main et lança « Boetistalri !» Un pan entier de la forêt flamba d'un coup. Déterminée, l'ombre continua de brûler un pan après l'autre. Les flammes formèrent un cercle d'une demi-lieue de diamètre autour de lui. On aurait dit une immense couronne en fusion posée sur la forêt. L'ombre était satisfait, mais il surveilla l'anneau de feu avec attention pour qu'il ne faiblît pas. Et au contraire, la langue de feu s'élargit, elle atteignit la zone que les Urgals fouillaient. L'ombre entendit des cris et des jurons. À travers les arbres, il vit trois de ses tueurs tomber, mortellement blessés. Il jeta un œil vers l'elfe qui tentait toujours d'échapper à ses poursuivants. Elle filait vers le bloc de granit à une vitesse hallucinante. L'ombre regarda le sol. 6 mètres plus bas, sauta et atterrit en souplesse devant la fugitive. Aussitôt, celle-ci fit demi-tour et reprit le sentier à fond de train. Du sang noir d'Urgal gouttait le long de son épée, tachant la bourse qu'elle tenait à la main. Les monstres à cornes émergèrent de la forêt pour l'encercler. Ils barraient la moindre issue. L'elfe avait beau tourner en tous sens, cherchant un moyen de s'enfuir, elle était cernée. Elle s'arrêta, affichant un mépris souverain. L'ombre s'approcha d'elle, une main levée. Un bref instant, il jouit de l'impuissance de sa proie, et puis ordonna « Attrapez-la !» Les Urgals firent un pas vers la femme, qui ouvrit sa bourse, glissa la main dedans, en sortit un grand saphir où se reflétait la lumière furieuse de l'incendie, et le brandit au-dessus de sa tête. Ses lèvres s'agitaient frénétiquement. Cédant à la panique, l'ombre aboya.
« Garge-la !»
Une boule de feu fusa en direction de l'elfe. Trop tard. Un éclair de lumière vert émeraude avait illuminé la forêt, et la pierre avait déjà disparu quand la flamme de l'ombre frappa la femme qui s'effondra. Dans un hurlement de rage, l'ombre jeta son épée contre un arbre. La lame se planta dans le tronc et vibra un moment avant de s'immobiliser. 9 boules d'énergie jaillirent alors de la paume de l'ombre. Les Urgals périrent sur le champ. L'ombre arracha son épée et se dirigea à grands pas vers l'elfe en proférant des prophéties de revanche dans une langue que lui seul connaissait. Serrant les poings, il scruta le ciel. Les étoiles lui rendirent son regard, indifférente, gardienne d'un autre monde. Une grimace de dégoût tordit les lèvres de l'ombre qui se retourna vers l'elfe. N'importe quel mortel serait tombé sous le charme de cette beauté, mais pas lui. Il s'assura que la pierre n'était plus là, puis alla chercher son cheval dans les fourrés où il l'avait caché. Il attacha l'elfe sur sa selle, monta à son tour et reprit sa route vers la forêt. Il éteignit les flammes sur son chemin, laissant le reste des bois brûler. C'était donc le prologue de Eragon de Christopher Paolini, et j'ai décidé de vous faire écouter Unstoppable de Shea, car j'estime que vraiment, dans cette course-poursuite, l'elfe a donné tout ce qu'elle pouvait. Pour savoir si elle va s'en sortir, je vous conseille de lire la suite. Et on se laisse tout de suite avec Shea, Unstoppable.
All smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm doing my feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid. show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible, yeah, I win every single.
C'était pas mal, n'est-ce pas? Je vous propose tout de suite de passer à la lecture adulte avec Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. C'est un livre qui a obtenu le prix des lecteurs du livre de poche en 2017, qui se passe au Japon et qui est plein de poésie. C'est parti pour la découverte. Doraharu, marchand de dorayaki. Sentaro passait ses journées debout derrière la plaque chauffante. Sa boutique était située en retrait de la route, longeant la voie ferrée dans la rue commerçante baptisée Sakuradori, la rue des cerisiers. La rue se distinguait pourtant plus par le nombre de commerces fermés que par ses petits cerisiers plantés çà et là. Malgré tout, en cette saison, il semblait y avoir un peu plus de passants que d'habitude, peut-être attirés par les fleurs. Sentaro remarqua une vieille femme, immobile, au bord du trottoir, sans y attacher d'importance. Il se concentra sur le saladier dans lequel il mélangeait la pâte. Devant la boutique se dressait un cerisier en pleine floraison, pareil à une masse bouillonnante de petits nuages. Sentaro était persuadé que c'était ce qu'elle contemplait. Néanmoins, lorsqu'il releva la tête un peu plus tard, la dame au chapeau blanc n'avait pas bougé. Et ce n'était pas le cerisier qu'elle regardait, mais lui. Il la salua machinalement. Alors, un sourire légèrement emprunté aux lèvres, elle s'approcha à petits pas. Sentaro se souvenait d'elle. C'était une cliente qui était déjà venue quelques jours plus tôt. Ça, là. Lentement, elle tendit le doigt vers l'affichette collée à la vitre. Son doigt était recourbé comme un crochet. Il n'y a vraiment pas de limite d'âge ? Sentaro suspendit le geste de sa spatule en caoutchouc. Ah, vous avez quelqu'un en tête ? L'un de vos petits-enfants, peut-être ? Sans répondre, la vieille femme cligna de l'œil. Le vent souffla, le cerisier frémit. Des pétales entrés par la vitre entrouverte se déposèrent sur la plaque chauffante. « Eh bien... » La femme tendit le cou vers lui. « Vous ne voudriez pas de moi ?»« Hein ?» laissa échapper Sentaro. Elle se désigna du doigt. « J'ai toujours rêvé de faire ce travail. » Sentaro rit, sans même avoir le temps de se demander si c'était mal poli.
« Quel âge avez-vous ? » ?»«
76 ans bien sonnés. »
Comment les conduire sans la blesser ? Sentaro cherchait ses mots en agitant sa spatule.
« On paye pas très bien, vous savez, par les temps qui courent, 600 yens de l'heure, vous imaginez ?»«
Hein ? Qu'est-ce que vous dites ?»
La femme portait la main à son oreille. Sentaro se pencha vers elle. C'était la position qu'il adoptait pour tendre les dorayaki aux enfants et aux personnes âgées.
« Chez nous, le salaire n'est pas très élevé. On a besoin de quelqu'un, mais pour une personne de votre âge...
Ah, ça !»
Son doigt crochu suivait la ligne inscrite sur l'affichette.
« Pour le salaire, la moitié fera l'affaire, 300 yens. »«
300 yens ? » ?»«
Oui. »
Sous son chapeau, ses yeux souriaient.
Oui, mais non, je crois pas que ce soit possible. Pardon. Désolée, vraiment.
Je m'appelle Tokue Yoshi.
Quoi ? Peut-être la femme était-elle un peu sourde. Elle semblait s'être méprise sur le sens de sa réponse. Sentaro croisa les mains sur sa poitrine pour lui signifier son refus.
« Je suis désolé. »«
Ah bon, vraiment ?» Toujours immobile, Tokue Yoshii scrutait Sentaro. Son œil droit et son œil gauche n'avaient pas tout à fait la même forme.
« C'est un travail très physique, vous comprenez ?»
Elle ouvrit la bouche, comme pour prendre une goulée d'air, puis elle montra soudain du doigt un point derrière elle.
« Ce cerisier, qui l'a planté ?»
Ah ? Le visage tourné vers l'arbre, Tokue répéta.
« Ce cerisier, là !»
Sentaro leva les yeux vers les fleurs épanouies.
« Comment ça qu'il a planté ?»«
Il a bien fallu que quelqu'un le plante, non ?»«
Désolé, je n'ai pas grandi ici. »
Tokue semblait vouloir ajouter quelque chose, mais lorsqu'elle vit que Sentaro avait repris sa spatule, elle s'éloigna en lui lançant
« Je reviendrai !»
Elle se mit en route dans la direction opposée à la gare. Sa démarche était gauche, comme si ses articulations étaient raides. Sentaro cessa de la suivre du regard pour se remettre à mélanger la pâte à pancake. Notre extrait s'arrête donc ici et je vous laisse avec une musique d'une douceur incomparable pour accompagner cette véritable petite pépite littéraire. Il s'agit d'une musique de film d'un tout nouvel animé qui sort très très bientôt et qui s'appelle Suzume no Tojimari.
Kimi no naka ni aru wakato wa okise mo so が結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風はにぎはが星はうぐすな人はかげろうThank you.
Merci à tous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir suivis pour cette toute nouvelle émission « Les lectures de Mimi ». On se retrouve la semaine prochaine avec deux nouveaux extraits, un en jeunesse et un en adulte. J'espère que cette émission vous a plu et que vous allez nous suivre de manière très assidue. À très bientôt tout le monde, ciao! Et oui, les lectures de Mimi, c'est déjà fini. Mais vous savez quoi? C'est trop bien parce qu'on peut se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel extrait lecture en jeunesse et en adulte. Merci à tous de nous avoir suivis, passez une super belle journée et à très bientôt !